Vainqueur avec Morgane Cadignan, avec
Bonjour.
Sam Villa, avec
Bonjour.
Laurence Bonjour. Mendes, tout à l'heure,
Bonjour.
Sandy Pastiro, à mes côtés Daniel Morin et notre invité Pénélope Bachelot.
Oh là 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 là, mais c'est Noël avant l'heure.
Et c'est une première semaine sans Nagui qui est en vacances, donc on a pris la relève.
Mais qui va nous entendre ?
T'as failli dire une horreur.
Tu disais pas c'est Noël avant l'heure.
Oh, c'est vil, c'est alors, j'adore.
Nagui, attendez, j'ai un SMS.
Non.
Il y a deux têtes qui viennent de tomber bêtement,
voilà.
C'est con. Hein.
C'est Daniel, mais Daniel, sa tête, elle tombe toutes les semaines.
Voilà. Exactement.
On va recevoir Pénélope Bagieux qui vient nous présenter Les Strates chez Gallimard. Les Strates, qui est un récit autobiographique qu'on a beaucoup. Mais on s'est aussi beaucoup retrouvés, je crois.
Ça, c'est vrai. Ouais, c'est toute mon histoire.
C'est toute l'adolescence, c'est toute l'enfance, c'est toute la jeunesse de Pénélope Bagieux. Et c'est parti pour notre blind test.
D'ailleurs, Strat.
Daniel ?
Ouais.
Florence,
oui. Bravo.
Damien 16.
Jeunesse, lève-toi. Damien 16.
Lève-toi.
Jeunesse, lève-toi.
Pourquoi du tronc ?
Il est Omicron depuis le début.
Donc c'est la jeunesse.
C'est la jeunesse le thème et c'est un point pour Florence pour commencer. Deuxième titre.
Morgan,
oui,
Aznavour.
Bravo, le titre tu l'as ?
Je sais, non.
Sa jeunesse.
Bravo, un point pour Morgan, un point pour Florence.
Bon.
Je pensais que t'étais sur le coup, moi, Daniel.
J'étais sur.
J'ai juste derrière.
Madame.
Troisième titre.
Dans ma jeunesse, il y a des
villes moroses. Oui, Tom, bravo, Tom.
Dans ma jeunesse, il y a des villes moroses. Dans ma jeunesse, il y a
une fleur. Et Morgane nous a fait un début d'AVC.
Non, moi, je l'ai trouvé en ombre chinoise.
C'est vrai.
Carla Bruni,
c'est très
ma
joli.
Jeunesse.
Mais ma jeunesse me regarde cruel.
On continue.
Plastic Bertrand ?
Non.
Ah, il faut la voir là.
Vous connaissez ?
On était une bande de jeunes.
Tom ?
Oui.
Adoshim ?
Non.
Daniel ?
Oui.
Berruyer ?
Bravo, Daniel ! Berruyer noir.
Oui.
Conte cruel de la jeunesse. Et premier point de Daniel Morin. On a une égalité parfaite dans ce blind test. Un point pour chacun d'entre vous.
Waouh.
Oh, comme tu dis.
On poursuit ?
Oui.
Oh, Morgan.
Tu l'as ?
C'est François Hardy.
Bravo.
Ma jeunesse
fout le camp.
N'hésitez pas à venir à mon réveillon du Nouvel An.
Et bon anniversaire, Morgane.
Ma jeunesse.
C'est pas une musique de fin décembre, ça.
À la mort de Fontaine.
Françoise Hardy, ma jeunesse fout le camp. C'est Morgane qui est en tête. Deux points.
Et
ben ouais, ben c'est quand même.
Non, mais on arrive.
Ouais.
Bon,
il y a deux titres sur lesquels vous pouvez faire la différence.
Daniel.
Ouais.
Gainsbourg.
Non.
Harry Potter.
Comme elle est longue. Florence Reggiani.
Oui, bravo.
C'est vrai qu'on est dans Noël là.
Ma jeunesse.
Comme elle est longue à mourir, ma jeunesse.
Un guéluron.
J'ai fait des mains.
C'est vrai que c'est un blind test un peu comme ça qui nous met dans l'entrain. Quoi. Donc, deux points pour Florence, deux points pour Morgane. On continue à jouer autour des textes et des chansons, autour de la jeunesse, pour parler de l'album Les Strates de Pénélope Bagieux. Et le Super Banco, c'est maintenant.
Daniel ?
Morgane ?
Oui. Des muscles.
Ah, le pire, c'est que tu me l'avais. Que je l'avais.
Ah ouais. Les oiseaux de ma jeunesse n'ont jamais changé. Ce petit surtaxi m'a légèrement mis sur la voie.
J'en étais sûre
là-dessus.
J'en étais sûre. Et c'est une victoire flamboyante, resplendissante de Daniel Morin.
Merci. Sur des miscousses.
Oui, bravo Daniel. Et on accueille notre invité Pénélope Bagieux.
Bonjour.
France Inter, la bande originale,
Leïla Kaddou.
Bonjour Pénélope, comment ça va ce matin?
Ça va super.
On est ravis de vous accueillir. Vous avez froid comme dans la bande dessinée, toujours le
toujours
froid.
Toujours froid, comme une petite vieille personne.
Ce qui vaut le pull, le châle.
Ouais. Voilà. Le damar dessous. Le...
Ah, voilà. Bah, oui. Ah, voilà. On en est au détail sexy. Ah, ouais. Le damar, en effet, le thermolactyle.
Ça fait beaucoup de progrès sur la dernière collection.
Daniel est un grand client, il a une carte de fidélité.
Ah, ça, je peux dire que...
On va parler ensemble des Strats, Pénélope Bagieux, ça un album bien. Publié chez Gallimard qu'on a adoré. Parce que...
On s'est retrouvés.
Ben ouais, on s'est retrouvés. Enfin, en tout cas, à titre personnel, on est à peu près de la même génération. Donc, on a traversé à peu près les mêmes épisodes, les mêmes moments de solitude, hein, les mêmes moments de désespoir, le même amour des chats aussi. L'album s'ouvre sur les chats et cet amour indéfectible.
Ben oui.
Ouais.
Ben oui, parce que ça traverse toute ma vie. Donc, c'est le début de l'histoire.
Encore aujourd'hui, les Strats, c'est aussi, il faut parler de l'objet, avant d'entrer dans le détail. C'est une sorte de carnet Moleskine. C'est un objet très très familier, parce qu'on a à peu près tous un carnet comme ça, sur lequel on a pu griffonner nos années, nos agendas, quand on était étudiant notamment, pour prendre nos notes. Et c'est un album en noir et blanc. Donc, il y a aussi un parti pris dans l'objet, parce qu'on a les précédentes créations, vos précédentes œuvres, elles sont très colorées aussi par endroits. Là, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix, Pénélope ?
J'avais envie que ça reste le plus proche possible de ce qui était l'objet à l'origine, c'est-à-dire que ce soit des histoires personnelles qui soient comme un journal.
Ouais.
Et c'est vrai qu'autant d'habitude, je m'en fiche un petit peu de l'objet. Mm-hmm. Je suis pas hyper.
Parce qu'ils sont quand même toujours très beaux.
Mais
ces
oui, et je suis attentive à ce qui est fait chez l'éditeur et je trouve ça très joli. Ouais. Et voilà, mais je pense pas à un objet, quoi. Et là, je voulais vraiment que ce soit un carnet et je voulais que ce soit comme si j'avais fait la couverture au Tipex moi-même et que ce soit super simple. Et puis ça m'aurait paru un peu bizarre de mettre un truc coloré avec des paillettes sur des histoires personnelles faites au crayon, quoi.
Ouais, ce récit de vie, c'est que...
Voilà, on a vraiment l'impression de que vous nous confiez votre carnet personnel, ouais. Quoi. C'est ça qu'il y a de super.
Bah, c'était un peu l'idée.
Ça, c'est
alors,
bien joué, hein.
Ben voilà, Tom a bien trouvé. Les strates, c'est la construction aussi d'un individu. C'est une sorte de sédimentation, couche par couche. Il y a une dimension un peu géologique, finalement. C'est la terre qu'on étudie de tranches, en fait.
Oui, ça y est, une coupe, mais dans laquelle on voit encore les couches, justement, comme quand on voit une falaise et que on arrive à voir le temps qui a fait chaque passage et on voit bien que la hauteur se fait par une accumulation.
Oui. Et alors, est-ce que ça a été compliqué de se lancer dans l'écriture de soi? Parce que vous l'avez dit dans plein d'interviews, vous avez souvent répondu aussi à cette question. Vous vous êtes intéressé aux culottés, à ces femmes qui ont marqué l'histoire, mais dont on parle peu en réalité. Et c'est une façon aussi de les réhabiliter et de donner d'autres exemples aux jeunes lectrices et lecteurs, et aux moins jeunes aussi d'ailleurs, pour parfaire leur connaissance de ce qui s'est passé vraiment dans notre histoire. Là, vous vous attaquez à vous, finalement. C'est vous que vous racontez.
Alors vraiment, je crois que ça n'a jamais été aussi facile de faire un livre de toute ma vie.
C'est vrai.
Ben déjà parce que je l'ai écrit en ne faisant pas un livre, ouais. Ce qui aide pas mal à écrire. Ce sont des histoires que j'ai écrites pendant des années. Il y en a une que j'ai écrite il y a 8 ans.
D'accord.
Après rien pendant 2 ans, et puis tout d'un coup plein pendant un mois, voilà.
Que vous écrivez sur votre temps libre ou entre deux albums ou deux planches.
Pendant les albums aussi.
D'accord.
Un peu comme une récré pendant. Par exemple, pendant que je faisais Sacrée Sorcière, j'en ai fait pas mal.
Ouais.
Et en fait, à la fin, j'en avais beaucoup. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un livre. Mais je pense que si je m'étais dit, en commençant, que quelqu'un d'autre que moi les lirait, je l'aurais jamais fait. Mmh. Donc, c'est un bon moteur de se dire, j'écris pour moi et personne ne verra.
Et quand vous l'avez proposé à l'éditeur, tout naturellement, le projet s'est monté.
Ben oui, mais on a une conversation où il m'a dit, hey, tu bosses sur quelque chose en ce moment. Et je lui ai dit, j'ai un livre qui est fini, si tu veux. Donc voilà, mais je lui ai dit, je voudrais juste que tu fasses pas de modifications. Voilà.
Ouais, et ça n'a pas été le cas, il n'y a pas de raison.
Non, bah du coup non. Mais il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin.
Ouais, parce que
ce qui est sympa.
Parce que vous abordez l'enfance, le lien que vous avez avec votre sœur, qui est très souvent dans l'album quand même, puisque forcément
c'est ma star.
C'est votre star à vous, ouais, c'est ça. Vous l'avez bien collé aussi, je crois. Ouais. C'est un peu l'idée des petites sœurs.
Hein, donc on colle les grandes sœurs, c'est comme ça.
Toute cette période d'enfance, le lien avec les parents qui est évoqué, ils sont moins présents, mais en tout cas il en est quand même question jusqu'à jusqu'à les débuts de l'adolescence et le corps, les transformations et puis les événements qui malheureusement arrivent à chacune d'entre nous au moins une fois dans sa vie à minima. Moi j'ai aussi ces planches là, elles ont été très très surprenantes parce que elles arrivent entre une fête et une envie de sortir avec un garçon et c'est aussi le quotidien des jeunes filles, c'est d'être confrontées à des agressions sexuelles.
Ah oui, et souvent entre une fête et l'envie de sortir avec un garçon. Ouais. C'est vrai qu'elles s'invitent un peu par surprise, comme dans la vraie vie. Et surtout, elles sont nombreuses. Mais j'en ai choisi quelques-unes, parce que je n'allais pas faire tout un livre là-dessus. Mais je pense que ça aurait été un peu artificiel de vouloir faire le puzzle d'une vie de jeune fille et de jeune femme sans parler de ça, puisque effectivement, c'est un petit peu une étape obligatoire, j'ai l'impression. Donc, comme ça fait quand même statistiquement partie de la vie de... la majorité des femmes, voilà, ça fait aussi partie des choses qui m'arrivent.
Et quel retour vous avez justement après la lecture de cet album sur ce sujet-là en particulier ? Parce que de vous entendre vous raconter, enfin de vous entendre de vous lire, de voir comment vous le racontez, c'est aussi soit s'interroger soi sur ce qui a pu nous arriver et soit se dire que c'est courageux, je ne sais pas si c'est courageux parce que ça sous-tendrait que ceux qui n'en parlent pas ne le sont pas, mais c'est aussi important quoi, de témoigner de ça.
Pour l'instant, j'ai eu des retours un peu quand j'ai fait des dédicaces. J'ai rencontré quand même des lectrices pas mal. Et on partage cette... c'est pas un regret, parce que c'est un mot un peu fort, mais cette frustration de ne pas avoir parlé, en fait. Parce que c'est ça que je raconte dans le livre, c'est pas tant les agressions, c'est ma réaction qui est systématiquement la même, qui est... non, mais on peut pas vraiment dire que c'est une agression. Et puis en même temps, est-ce que j'avais pas un peu cherché ? Est-ce que...
Je suis restée dormir.
Voilà, la honte, le silence, l'autoculpabilisation. Et en fait, c'est surtout ça qu'on partage, j'ai l'impression.
Ouais.
Au-delà de la banalité de ça, ouais, il y a aussi la réaction qui est malheureusement un peu la même toujours. Quoi.
On est ravis de vous accueillir, Pénélope Bagieu, pour les Strates aux éditions Gallimard, mais ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Il y a Morgane Cadignan. Et Morgane ne vous aime pas, c'est comme ça.
Toujours pas.
Pénélope Bagieu, je vous aime pas parce que vous êtes sacrément culottée. On est mort de rire. Non mais quand t'as sorti un succès comme Les Culottés, je pense que tous les journalistes du monde appellent l'article Pénélope Bagieu, portrait d'une dessinatrice culottée, en ayant l'impression d'avoir trouvé la formule à oxygène, quoi. Chaque fois que je passe devant un kiosque et que je vois la une de Libé, je peux pas m'empêcher d'imaginer le mec qui écrit le titre en mode ils vont pas la voir venir celle-là. Hein, titré On ira tous au paradis pour la mort de Paul Naref, vraiment très original. T'as mérité ton café, mon Michel. Ah bah là, avec les Strates, bon courage. Hein, ça va être plus compliqué, le jeu de mots, mich-mich. Bon, si les ventes sont très très bonnes en Italie, on pourra partir sur Stracciatella. Mais pour l'instant, j'ai que ça. Et oui, les amis, nous sommes le 20 décembre. Ressenti 47 août. Mais Pénélope, déjà, je dois vous remercier d'une chose pour faciliter l'écriture de cette chronique. Vous avez fait quelque chose incroyable pour un auteur de BD invité dans cette émission. Vous n'êtes pas Joanne Sfar. Et ça, à la 300e chronique, bah, c'est un peu Noël en avance. Vous êtes sûrement la dessinatrice de BD la plus connue de France. En 2019, vous recevez le prix Eisner de la meilleure édition américaine d'une œuvre internationale, la plus haute distinction mondiale de la bande dessinée. Alors déjà, c'est classe. J'étais pas à la cérémonie, mais meilleure édition américaine d'une œuvre internationale. Il y a clairement des jeux de mots qui sentent l'hôtel avec un bon petit déj. Quoi. Franchement, genre le jus d'orange, avant d'être du jus d'orange, c'était pas de la poudre. Petit déj de qualité, genre les œufs brouillés se sont réconciliés, le bacon il tient la porte. Et ça les amis, c'est pour ça que j'aurais jamais aucun prix, nulle part. Prix Eisner, c'est la classe. Ah bah pardon Leïla, mais dans ta gueule Angoulême. Franchement, parce qu'en France, t'entends BD, direct tu penses à Angoulême. Ben ouais. Et c'est vrai, c'est une belle revanche hein, quand t'es préfecture de la Charente. Ça c'est des villes qui se laissent pas faire.
Attention.
Tu vois, non mais j'aime bien. C'est comme quand t'es Deauville. Ah ouais, vous voulez jouer à ça? Moi, je suis sous la pluie. Moi, l'eau de la mer, elle est marron. Bah, festival du cinéma américain dans ton cul, Paris. Pénélope, en parlant de cinéma, vos personnages, ils sont même amenés à la vie, comme ça a été le cas pour Joséphine, qui est devenue Marie-Lou Berry pour deux films. Ok, tout le monde continue sa vie comme si je venais pas de faire une transition de ouf. Moi, je veux bien interpréter n'importe lequel de vos personnages. Peut-être pas une culottée, faut pas exagérer, parce que j'ai pas fait grand-chose pour la cause des femmes, à part en être une. Et encore, sous certains angles, dans une pièce mal éclairée, tu peux avoir le doute. J'ai rien fait qui mérite que vous me consacriez une planche. Contrairement à vous, ma vie n'est pas du tout à fait fascinante. Finalement, en termes de ville, je pense que je suis un honnête Reims. Voilà, je me prends pas pour ce que je suis pas. Petite capitale officieuse de ma région. Il flotte souvent, mais franchement, si vous voulez, il y a pas mal de champagne.
Bravo Morgane. Dans cet album, Pénélope Bagieu, on revisite aussi les soirées, les fêtes, avec il y a une bande son aussi, il y a une bande son, il y a Outkast. Yeah, parce que cette période, c'est aussi la quête de l'être aimé, ou en tout cas de l'amoureux, quoi. On est amoureuse toutes les 15 secondes, parfois vous le dites pendant 20 minutes.
Ouais, moi c'est ça, j'ai un truc très trop nourri à des choses romantiques guimauves qui fait que je suis assez, moi maintenant. Mais à l'époque, en tout cas, j'étais un petit peu amoureuse tous les jours. Ouais.
Avec des méthodes de drague qui sont pas forcément complètement au point, il faut le dire.
Non, ça pour le coup, j'ai pas beaucoup progressé en plus, donc toujours un peu pareil.
Donc on se promène comme ça dans cet album sur dans les méandres de l'adolescence, le rapport à la sexualité aussi. Et le rapport à la sexualité, il est quand même très drôle, c'est ce que j'ai pas encore dit de cet album, c'est qu'à la fois j'ai beaucoup ri, j'ai eu des moments aussi de tristesse, on va l'évoquer, avec une figure féminine importante dans la famille Bagieux. Mais surtout, le rapport au sexe. Se rendre compte qu'en fait, on est souvent, on a souvent une première expérience sans du tout savoir de quoi il est question.
Ah oui, sans vraiment du tout savoir de quoi il est question, puisqu'avec zéro info, à part... Les plus vieux se reconnaîtront, à part Love in Fun, qui était ma seule source d'infos quand même.
La Bible.
Et la Bible, mais quand même plutôt Love in Fun. Merci. Donc les 10 foules, on les embrasse.
Donc les 10 foules, c'est vrai qu'on a été biberonnés.
Mais moi, c'était la seule... Il y avait ça et les infos de mes copines qui ne savaient rien non plus, en fait. Ouais. C'est-à-dire une espèce de soupe, de mélange de fausses infos qu'on partageait. Alors, il paraît qu'en fait, si le deuxième jour... Enfin, un miracle qu'on n'ait pas toutes une ribambelle d'enfants et de MST, parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Ouais. Et puis bon, les mecs, n'en parlons pas, qui eux vraiment savaient pour le problème, parce qu'en plus eux ne parlaient de rien. Donc
et rencontrer du coup la bonne gynéco, parce que c'est ça aussi. C'est des rencontres. Et puis c'est aussi une femme qui vous juge pas et qui vous donne les clés en fait, les premières clés en tout cas.
Ouais, puis quand même trouver dans les pages blanches encore un élément que les plus vieux comprennent, mais. Ouais. C'était fou, c'est-à-dire que j'étais en vacances, j'ai trouvé une gynéco dans le Beautin et j'y suis allée en stop, quoi. C'est comme ça.
Ça décrit une époque, on va pas se le cacher.
Oui, mais parce que le dialogue se faisait pas à ce sujet-là à la maison, on n'osait pas parler.
Si, je pense qu'en plus, ma mère aurait été complètement open, mais moi j'avais pas du tout, c'est la dernière personne avec qui j'avais parlé, c'était ma mère, quoi. J'avais une grande sœur, ce qui est quand même toujours un peu un bonus, mais sinon j'avais... Doc et Diffoul, quoi.
Doc et Diffoul, la bande son de tous les ados de cette époque-là. Et puis aussi, on danse en boîte sur Gala.
Encore aujourd'hui.
Gala en boîte, la découverte aussi des corps un peu rugissants, de la poitrine qui se dessine, cette poitrine qu'on a tant espérée.
Ah ça, j'ai prié pour qu'elle arrive un jour.
C'est tellement drôle là, dans notre livre, l'attente.
L'attente,
ça vient
se coucher.
Et un
matin, au réveil.
Un matin, ça y est, ils sont là. Ils sont
là. C'est vraiment le souvenir que vous en avez d'un coup.
Ouais, je me souviens que je passais mon temps à me dire quand est-ce que. Et un jour, je fais ah ils sont là. Vraiment, en une nuit, quoi.
C'est pas comme Daniel. Ouais, c'est tapé une opération, donc ça n'a rien à voir.
Et en me disant que ça allait tout changer et qu'enfin j'allais avoir accès à tout ce qui était
amour.
Une forme de popularité, l'amour, la beauté et tout. Et puis je me rends compte qu'en fait c'est quand même une quête un peu perdue d'avance de chercher à se faire valider physiquement, puisque voilà, la chute c'est qu'après les mecs me disaient que j'avais une sale gueule. Donc en fait, après on apprend à faire autrement que dans le regard des. Je vais pas faire comme si c'était un sujet clos.
Ouais,
c'est que c'était que le début, comme plein de choses qu'il y a dans ce livre. C'est que c'est juste les graines de la suite d'une vie de femme, c'est-à-dire passer son temps à être quand même jaugé physiquement et à se dire est-ce que ça va, est-ce que je suis validée ou pas.
Mais ce que j'ai trouvé beau dans cet album, c'est ça, c'est de se repenser en tant qu'adolescente, se dire qu'on a passé un temps fou, par exemple, à penser à être populaire, à être aimée. On y a dépensé une énergie folle. Finalement, les souvenirs que j'ai de l'adolescence, c'est qu'en grande partie, ce sont ces choses-là, et beaucoup moins peut-être les cours ou les autres. Non, mais c'est vrai, les autres problématiques.
Les priorités.
Les déclinaisons en allemand, beaucoup moins de souvenirs.
Beaucoup moins de souvenirs que de se demander si un tel m'a regardé à la récré, en gros. Et je trouve que vous regardez l'adolescence avec douceur, quand même.
Ah oui, il faut, parce que déjà, c'est comme toujours nous, cette petite personne. Et puis qu'elle avait quand même bien du courage, cette petite personne, de traverser ce tunnel épouvantable qui dure heureusement que quelques années, mais qui est quand même nul.
Ouais,
du début à la fin.
Morgane a levé la main. Il y a eu un jaillissement là.
Morgane lève la main, ça fait peur à tout le monde.
Parce que il y a plein de planches dans lesquelles vous finissez en disant quand même ce que vous disiez, vous avez eu du courage. Et ça, c'est quelque chose, vous vous en rendiez compte à l'époque ou c'est après, plus tard, adulte, en y repensant que.
Ah, mais c'est même en l'écrivant. Par exemple, l'histoire où je raconte cette espèce d'énorme râteau que j'ai pris quand j'étais au lycée, que j'ai suivi un mec qui s'en foutait complètement de moi à la fête de la musique. C'est en l'écrivant, avec un œil de. Presque d'auteur, quoi, parce que je me dis, et quand même, ce personnage est incroyable, cette fille qui se tape cette mission à l'autre bout de la terre pour rien. Et j'ai envie de me le dire à moi-même et de me dire, waouh, quand même, t'étais mignonne, quoi. Parce que aujourd'hui, je ferais pas la moitié des trucs que je faisais à l'époque par amour. J'ai mis des guillemets visuels avec mes mains. Parce que amour pour un mec à qui j'ai jamais parlé, mais aujourd'hui, en fait, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai de la tendresse pour l'adolescente que j'étais, les adolescents en général. Je trouve que c'est une époque où on vit tellement fort, on est touchant tout est brut, quoi. Oui. C'est-à-dire quand on est amoureux, on est fou amoureux. Quand on est triste, on est désespéré. Quand on relit les pages de son journal, les causes qui nous émouvaient, qui nous faisaient des émotions.
Elles étaient dans le ventre.
Voilà, genre vraiment, je vais jamais me remettre de rien. Et après toute la vie, quand on devient adulte, on fait que rajouter des couches de protection et de cynisme. Pour se dire, s'il ne m'appelle pas, je ne l'appellerai pas. Bon, et en fait, on devient une version tiède de cette espèce de petit diamant brut qu'on était, en bien et en mal. Donc oui, c'est hyper facile de se moquer de cette personne, rétrospectivement, parce qu'elle est extrêmement intense, voire émo. Mais c'est touchant, c'est palpitant quand même. Donc après, on a une version un peu tranquille de ça.
Ouais, c'est un peu triste, finalement.
Ce serait épuisant hein, si ça continuait.
Oui, et puis ça permet de pas devenir complètement fou aussi, et puis de pouvoir se stabiliser. Mais c'est, je trouve ça assez touchant cette personne qu'on a été et qui, en tout cas, elle mérite d'avoir fini le parcours, quoi, d'être arrivée au bout, d'être arrivée à 18 ans, voilà, d'avoir tenu alors que tout est nul.
Le bout du tunnel, quoi. C'est ça. C'est d'un coup devenir un peu plus.
Mais oui, mais moi c'est ce que j'aurais voulu lui dire à cette personne, lui dire c'est bientôt fini.
C'est le début d'un autre tunnel.
Oui, c'est un autre tunnel. Mais tu vois, c'est un tunnel où tu commences un peu à contrôler des choses.
Il y a des fenêtres.
Par opposition à une époque où tes parents te disent ce que tu fais, au collège tes profs te disent ce que tu fais, et tu fais du coup je vais faire ce qu'on me dit. Alors t'as des toutes petites marges de révolte pour faire des trucs genre je vous emmerde, je vais me faire un piercing et tout. Mais en fait, tu contrôles que dalle. Et plus après t'avances dans ta vie d'adulte, plus enfin ça devient un peu ta vie, avec d'autres contraintes, mais quand même, moi je trouve que c'est devenu quand même vachement mieux après le bac, quoi.
Oui.
Déjà rien que ça.
Et avec cette musique. C'est ça aussi la
La marche de révolte, quoi. Merde, j'avais vu ça.
C'est la bande son de l'ado en colère qui décide de s'amouracher.
Et même de l'adulte en colère.
D'accord.
On me dit toujours pas ce que je dois faire.
Vous aimez bien la musique comme ça qui dépote un peu.
Ouais, c'est vrai.
Alors, mais là, quand on est ado, musique, quand on dit pas qu'il dépote.
Ça marche avec les profs. Et quand on est adulte, c'est d'autres, c'est le banquier.
Mais Daniel, c'est ça, mais on le dit plus dans sa tête, quoi.
Mais
on le dit.
C'est un super album, Pénélope, parce qu'on revisite toutes ces années-là et on a la sensation qu'on a eu à peu près la même adolescence. Je crois que c'est aussi cette dimension universelle, finalement, que vous parvenez à toucher.
C'est pas que pour les filles.
Non, voilà, c'est ça ce que j'allais voir avec toi et Tom. L'adolescence étant plus proche pour Tom, mais
alors c'est sûr que
à peine
vite fait, il y a des références que Tom tu n'auras peut-être pas, comme valider des vœux sur Minitel par exemple pour l'orientation.
Tu l'as fait, t'as eu Ravel
36-14.
J'ai eu Ravel effectivement sur le brevet. Collège, c'était il y avait internet à l'époque.
Désolé les vieilles, moi
j'étais chez Waladou avec Icos.
C'est ça la modernité. Et toi Daniel, ça t'a rappelé quoi de ton adolescence ?
Toi qui l'as reçu sur papyrus.
ma période féminine, ça m'a tout rappelé. Non mais ça m'a rappelé beaucoup de copines qui de temps en temps se confiaient ou se confiaient pas et que j'allais espionner évidemment.
Moi ce que j'ai adoré c'est la photo, enfin le dessin avec le petit chat, et il y a le chat qui est devenu très gros et le Polaroid où c'était je sais pas 5 ans avant. Non il a pas bougé. Alors, il est devenu énorme, c'est un sumo.
Ouais, parce que fumer est un greffon. Voilà, c'est le concept du chat qui a grandi avec vous. Vous êtes sa maman, en fait, et vous vous considérez comme telle. Et donc, c'est un chat qui vient partout avec vous. Mais quand je dis partout, à tous les moments de la journée, le chat est avec vous.
Mais oui, mais je pense que les heureux...
parents de chat, vous avez fait dire parents de chat.
Les heureux parents de chat savent de quoi je parle. Quand on marche dans sa cuisine avec le chasse-slalom entre les pieds, qu'on lui marche dessus tout le temps, les chats, quand ils nous aiment, ils nous quittent plus.
Ouais.
Si c'est pas le cas, c'est qu'ils nous aiment pas.
Ouais, sauf qu'un jour, les chats, ça part éventuellement. C'est des bêtes à chagrin. J'ai un amour fou pour les chats et je me suis toujours pas remise, moi, de mon dernier chat qui n'est plus là.
Pose-toi des questions. Pourquoi il est parti?
Non, mais je me reconnais tellement là-dedans dans ce rapport complètement fusionnel qui peut sembler complètement fou à plein de gens. Sauf que dans cet album, c'est aussi apprendre à voir partir les gens, les êtres chers, en fait.
Ouais, c'est apprendre à perdre des choses et des gens, et puis de l'insouciance, perdre en fait.
Ouais.
Et à chaque fois, avoir l'impression que on va jamais s'en remettre, et puis en fait toujours s'en remettre.
Ouais, c'est ça, toujours rebondir.
Et ça, c'est quand même une bonne constituante du fait de vieillir, quoi. C'est de se dire, tiens, c'est marrant, ça me rappelle la dernière fois que j'ai perdu un chat, ou la dernière fois que je me suis mangé un râteau, ou en fait le précédent fait que on s'en remet plus vite.
L'estrade de Pénélope Bagieu aux éditions Gallimard. On continue d'en parler dans la bande originale, mais tout de suite, c'est Florence Mendez. Bonjour Florence.
Salut à tous. Alors j'ai croisé Fanny Ruet qui m'a dit en studio, le masque est obligatoire, c'est pour savoir si je dois me laver les dents. voilà. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Il y a quelques semaines, j'étais à Montreux et il y avait une salle de sport dans l'hôtel et j'y suis allée. Et croyez-moi, vu ma condition physique, ça valait bien une chronique. Déjà à l'école, chaque cours de gym, moi je le passais planqué dans le plinth. Vous vous souvenez du plinth,
hein? Ouais. Voilà. C'est quoi le plinth?
Alors le plinth, c'est son des. Non, tu me gâches ma chronique.
Cultive-toi.
Le plinth, si vous êtes fan de Do It Yourself, il peut servir d'excellente base pour un glory hole. Voilà. Oh. J'ai toujours été nulle en sport. Une fois, mes parents, ils m'ont inscrit à un stage de trampoline. J'étais toute petite, toute menue. Alors, je sautais vraiment très très haut. Et on dirait pas comme ça, mais c'est super dur le trampoline. En fait, le plus dur avec le trampoline, bah, c'est le plafond. Hein.
C'est le trampoline.
Maintenant, du trampoline, je peux plus en faire à cause de mes seins. S'il y en a un qui sort, je m'assomme. Voilà. Une fois, j'ai fait du trampoline. C'était dans un camp nudiste. J'ai passé 3 semaines dans le coma. Alors comme chaque année, je sais qu'au mois de janvier, je vais me réinscrire à la salle de sport avec la ferme intention de cette fois y aller. La dernière fois, j'avais vite abandonné. Enfin, c'était pas malin. Je venais de déménager parce que j'en avais marre d'habiter au 3e sans ascenseur. Et juste après, je m'étais inscrite à un cours de step. Donc je suis rentrée dans la salle. Franchement, j'étais pas rassurée déjà parce que je suis sûre que la moitié des machines dans cette salle ont inspiré le tueur en série dans Saw. Une fois passé le choc, je me suis mise au boulot. Alors j'ai commencé par le cardio. Un truc fait pour augmenter ton souffle. Sauf qu'au bout de 2 minutes, moi, j'avais l'air d'avoir de la mucoviscidose, Grégory Le Marchal vraiment.
Oh
et le cardio, putain, c'est voyage au bout de l'ennui, quoi. Vraiment, un long suicide par lassitude. Le tapis, par exemple, c'est d'un chiant. Si je veux marcher sans but jusqu'à ce que plus rien n'ait de sens, pour ça, j'ai la vie, en fait. Voilà. Et le rameur, mais Highway to Hell, mon cul, s'il y a un enfer, pas besoin d'autoroute, clairement, on y va en rameur. Je pense. Le pire, c'est les meufs à côté de toi, elles s'y connaissent. Tu vois, limite, elles sont là en mode commande vocale, genre Alexa, tu me règles le tapis de course, inclination 17,2, vitesse 6,4, climat subtropical, et pour le vent, attends, de quel côté ma ligne sud-sud-ouest, voilà. Et ces meufs, il faut pas leur parler parce que sinon, elles te disent des trucs du genre moi ce que j'aime c'est les pompes, comme ça j'ai les mains libres et je peux lire mon bouquin. Mais attends, pour les pompes t'as besoin de tes mains? Pas moi, non. Voilà, j'ai aussi fait du gainage, voilà. Et je voudrais qu'on prenne un moment pour maudire la semence du fils de Truy Vérolé qui a inventé ce putain d'exercice. J'étais censée tenir 45 secondes la vie de ma mère au bout de 15, j'étais prête à tout avouer et à rendre public mon historique internet pour que ça s'arrête. J'avais l'air d'un putain de phoque. Moi si je gaine au Mont-Saint-Michel, je suis sûre qu'il y aura des connards pour me filer du poisson, tu vois. J'ai même fait des exercices de muscu et la muscu voilà, mon seul exploit en soulevant des trucs lourds, ça a été de pas péter. Voilà, bon appétit, c'est tout. Ouais.
Ah, c'est pas vrai. Et je m'y attendais pas. Florence Mendez.
Il n'y a pas de petite victoire. Hein.
On peut venir te voir en spectacle à partir du 6 janvier, tous les jeudis, au Métropole à Paris.
Je ne soulève rien.
J'en supplie.
C'est même pas toi qui tire le rideau.
Je suis obligée de te poser la question, Pénélope.
Pardon.
Est-ce que quand vous soulevez des trucs lourds, vous pétez?
Pas du tout. Le sport. Le sport, le rapport à l'effort, le rapport à la compétition. Qu'est-ce que j'ai ri avec cet épisode à l'école française de ski et ce premier flocon. Vraiment?
Et non, ce premier nounours.
Oui, mais je sais, mais bon, a priori, c'était ça.
Alors, ce qui est vraiment chouette, c'est que, donc, le nounours, dont le vrai nom est l'ourson, hein, ça ne s'appelle pas vraiment le nounours. mais bon, en plus, on m'avait menti même sur le nom du truc. L'ourson, c'est ce qu'on donne aux enfants qui ratent le flocon à l'école du ski. Et, j'ai découvert qu'il y avait un petit club très fermé des gens qui ont l'ourson. C'est des gens qui se manifestent maintenant. Je suis hyper touchée à chaque fois. Les gens me disent, et au fait, ou des gens qui m'envoient des photos de leur ourson.
Ouais.
Et je suis fière, c'est un peu comme les Mensa du ski, quoi. Ouais. Ça me fait plaisir.
Mais en même temps, c'est au-delà de l'anecdote et du rire que ça peut susciter de se dire que bon, vous avez loupé votre flocon, vous avez eu votre ourson. On vous a quand même insufflé à ce moment-là l'idée que vous étiez une championne.
Alors déjà, je pense que rien n'était prémédité. Je pense pas que mes parents aient délibéré entre eux et soient dit. Je pense que c'est le moment d'en placer une. C'est vraiment, ils voulaient pas que je sois triste.
Ouais.
Mais pas tant que j'étais une championne, mais que j'avais des compétences, quoi.
Ouais.
Que j'étais pas nulle. En fait, juste que j'étais pas nulle. Je pense que déjà, c'est un gros step dans une enfance de se dire. On commence pas tout de suite par me sanctionner dès 5 ans en me disant que j'ai raté un truc et que je suis nulle.
Ouais.
C'est une bonne piste. Du coup, c'est vrai qu'après, j'avais l'impression que, en tout cas, pour tout ce qui était physique et sportif, j'avais des facilités, ce qui est quand même une blague. Parce que vraiment, pour avoir essayé des trucs, je n'ai pas de facilité sportive du tout. C'est horrible. Mais j'y croyais vraiment très fort.
Et vous faites ça avec vos enfants aussi?
Non.
Je trouve que c'est plutôt même un point positif de se lancer dans quelque chose en disant, je ne me pose pas la question de si j'ai les compétences ou pas, je vais le faire et je pense que je le fais bien. Et finalement, on est heureux comme ça.
Ouais, et puis il sera toujours temps de se ramasser la gueule après.
Ouais, mais ouais. Et toute la vie pour ça.
Oui, et puis avec le temps d'affiner, se dire, bon bah ça clairement je suis nulle, mais c'est pas grave.
Ouais.
Et aussi je pense que ça m'a donné le goût des trucs que je rate mais qui sont agréables à faire quand même. Par exemple, j'adore aller au bowling alors que je suis vraiment nulle. Et les gens, quand je dis ah, j'adore le bowling, ils disent ah ouais t'es bonne. Et je dis non, je suis pas bonne, mais en fait c'est pas du tout la même chose. Et c'est hyper important d'aimer faire des choses même si on n'est pas... performant, quoi, en fait.
Vous utilisez le petit toboggan au bowling pour lancer la boule ou pas?
Non, moi je demande qu'ils ferment les rigoles sur les côtés comme...
Ah, ils mettent les barrières.
Ouais, ah, oui, au mini-bowling, et puis on peut faire ça.
Donc c'est pas le même sport, du coup, en fait. On est d'accord que
Si, quand même, il y a une forme d'adresse. Mais moins de chance de foirer, quoi.
Oui.
Ouais. Nous, on va continuer à parler bowling, mais tout de suite sur France Inter, dans la bande originale, c'est Hervé, permis de construire.
Je savoure mon blues de terrien. Je remets le courage à demain, c'est rien. Incendie volontaire, j'emmènerai rien plus loin. Je lance des adieux salutaires, je laisserai faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire, ce qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux. Je me regarde en face, consacré vicieux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Accran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, je fais juste un état des lieux. Partout y'a du sang sur les mains. Mais moi je fais comme si c'était rien, c'est bien. On s'est dit volontaire qu'on irait bien plus loin. Je lançais des adieux salutaires, je laissais faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire, ce qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux. Je me regarde en face, consacré vicieux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, je fais juste un état des lieux. We'll be right back.
C'était Hervé sur France Inter, permis de construire, et on est toujours avec Pénélope Bagieux. Et Pénélope, on va s'intéresser aux musiques que vous écoutiez dans votre vie. On commence par l'année 80. Pour vous mettre de bonne humeur, Pénélope, les années 80, c'est l'année de votre naissance, vous êtes née en 82, et vous avez toujours su que vous serez dessinatrice, c'est une certitude depuis que vous êtes toute petite.
Ouais, ou en tout cas j'avais la certitude que je serais américaine aussi.
Ah bon ?
C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. Ouais. En fait, je voulais être reine d'Amérique.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire, c'est ça, voilà, c'était mon projet de vie, quoi.
Ouais.
Je me souviens visuellement même de où j'étais quand je l'ai dit à mes parents et tout.
Ça consiste en quoi, être reine d'Amérique ?
Bah déjà, c'était changer toute la partie politique d'un pays, donc fallait réformer.
Ça, c'était pas un problème pour moi, tu vois. J'avais mon nom, donc c'était possible. Et effectivement, sinon aussi, je voulais me mettre dans la rue avec une petite table et vendre des dessins. C'était ça le métier que je voulais faire.
Mais elle vient d'où la fascination des États-Unis si petite ?
Et ben, j'imagine de
la télé.
Et aussi de Grise, parce que je regardais Grise toute la journée et que je me dis, en fait, je pense que je voulais être reine d'une Amérique des années fin 50.
Le bowling.
Voilà, c'est ça.
Le diner.
Le diner, les bombers.
Cette Amérique-là, quoi. Voilà, j'allais être reine de ce pays-là.
Et comment vous en êtes venue au dessin ? On dessine à la maison ou pas ? Vos parents dessinaient ?
Et mes parents m'ont filé des feutres et du papier tout le temps pour avoir la paix. En fait, pour que je puisse faire des dîners avec des copains et qu'ils m'entendent pas.
Ouais.
Et en fait, j'avais aussi une sœur qui dessinait. Et on se faisait des histoires à deux où il y en avait une qui écrivait, une qui dessinait. Et après, on échangeait.
D'accord.
Et on faisait des histoires comme ça d'espèces de dynasties de familles qui vivaient dans des châteaux avec des déchirements, etc. On faisait vraiment les feux de l'amour.
Ah, c'était déjà une petite entreprise. Hein,
complètement. La famille Bagieux produisait déjà des œuvres de fiction de qualité.
Mais est-ce que vous avez gardé des dessins de votre enfance ?
Ouais, plein. Ma mère en a plein. Et pour le coup, les histoires qu'on écrivait avec ma sœur, on faisait des fanfictions, comme on dit aujourd'hui, de Queen. En fait, c'était ça le gros de nos histoires. Et où les membres de Queen habitaient tous ensemble dans une maison. Et donc ils avaient des histoires. Et ça, on les a gardés. Et on a plein de. Aujourd'hui, on a beaucoup de private jokes avec ma sœur sur nos histoires pourries qu'on écrivait, hyper mal dessinées en plus de Queen en fait.
Et il y avait beaucoup de livres, je sais pas, avec des dessins pour adultes ou pour enfants à la maison. Ça faisait partie de l'environnement.
Ouais, il y avait pas mal de livres illustrés parce que ma mère collectionnait les pop-up, les livres avec des petites tirettes et des trucs magiques dedans. Que j'avais pas le droit de toucher, ce qui a quand même beaucoup participé à la mythologie
terrible.
Pour moi des beaux livres, quoi. Un jour j'aurai le droit de les toucher.
Ouais.
et du coup, j'avais en libre accès vraiment beaucoup de belles images, quoi.
Ouais.
Donc ça me paraissait hyper naturel comme. Mais bon, ce que je préférais, c'était les dessins animés, quoi. Donc voilà. On était aussi une génération qui avait beaucoup de beaux dessins animés.
Ouais, c'est vrai. On passe à l'année 2000. Les mamas et les papas, pour illustrer cette année.
Près de 2000.
2000, oui. C'est ça.
La meuf dans l'air du temps.
Après un séjour à New York, vous restez combien de temps à New York ?
Ah, j'ai fait des sauts de puce à chaque fois que je gagnais de l'argent à Paris, je repartais, puis quand j'avais plus d'argent, je rentrais.
Toujours pour entretenir ce rêve de reine américaine. Vous l'aviez encore ?
Ouais, surtout pour entretenir ce. C'était une période un peu de flottement où je savais pas ce que j'allais faire dans la vie, donc tant qu'à faire, je travaillais, et puis voilà. Mais quand j'étais en prépa à école d'art, je sais pas pourquoi cette année-là, j'ai tourné avec deux CD que j'écoutais tout le temps. C'était Surfer Rosa des Pixies et un best-of des Mamas and Papas. Et du coup, encore maintenant, j'ai des flashs vraiment de mes concours et mes trucs. C'est l'album de cette année-là pour moi, quoi.
Et est-ce que le passage à l'école était obligatoire ?
À l'école d'art ?
Ouais.
Alors pas du tout, non. Mmh. Pour moi, oui, parce que j'avais besoin qu'on me dise « C'est bon, maintenant tu as un diplôme, tu es vraiment artiste. » Parce que je suis comme ça. Ça me rassure, mais la grande majorité des dessinateurs de BD que je connais sont autodidactes, donc vraiment il faut arrêter avec ce mythe de l'école d'art. C'est bien quand on est quelqu'un de très scolaire, comme moi.
Ouais. Et vous aviez envie de faire quoi déjà à l'époque, à partir du moment où le dessin, c'était sûr que ça allait faire partie de votre vie, mais quel genre de dessin ? Est-ce que vous avez hésité ? Est-ce que ça s'est venu comme ça tout de suite ?
Bah, je voulais dessiner, raconter des histoires.
Ouais.
Donc ce qui me paraissait le plus logique, c'était faire des dessins animés. En fait, la BD, c'est encore plus simple.
Parce que le dessin animé, c'est long et complexe ou...
Parce que c'est avec des gens. Et il faut travailler avec des gens.
Ah,
et ça, pour moi, c'est vraiment un frein. Donc, le dessin animé, c'est en équipe, en fait.
Ouais.
Et quand j'ai compris ça, voilà, ça a été la fin du rêve de dessin animé. Parce que moi, j'aime bien travailler chez moi et toute seule. Par la personne.
Seule, à la maison et avec beaucoup de chauffage. On a
compris. Avec un chat.
Et avec un chat, absolument. Et avec un chat.
Et ça, dans l'animation française, je crois que c'est pas possible.
Ouais. à moins de créer votre propre studio Pénélope Bagieux. Personne, et de travailler avec personne, absolument. Ça serait un coup de maître. On passe en 2008. Britney, Womanizer. Ça, vous avez quels souvenirs vous avez avec cette musique de Britney Spears?
J'ai tellement de souvenirs avec Britney en général. Un livre parallèle, un spin-off de Strat pour être sur ma vie avec Britney.
Les Spears.
Pas mal, les Spears. Bravo. C'est-à-dire que je me suis demandé, quand on m'a posé la question, ce que je faisais vraiment à ce moment-là, et c'était la toute fin de mes études, c'était quand même un moment où ça travaillait plus beaucoup aux Arts Déco. Et que c'était quand même surtout beaucoup faire des soirées.
Oui.
Et quand même, Womanizer était la chanson de l'année. Donc, vraiment beaucoup de choré ivre sur Womanizer. Et puis, dans le clip, elle faisait un truc incroyable avec ses cheveux. Je sais pas si vous l'avez en tête. À un moment, elle est à quatre pattes. Bon. Et elle fait une espèce de fouetté avec ses cheveux complètement fou.
Évidemment.
Et voilà, moi je pense que c'est vraiment le début de quelque chose.
Et vous êtes entraîné. Vous êtes entraîné quelques fois.
Ouais, plein de fois, je me suis mis les cheveux dans la gueule.
Torticolis et tout. Ouais. Et tout
elle est forte, c'est une professionnelle.
Hein. C'est vrai, c'est son métier. Et en 2008, vous créez Joséphine. Joséphine qui va. Initialement, je crois que c'est pour un magazine féminin.
Ouais, c'est pour Femina.
D'accord. Et ensuite, ce personnage, vous allez l'accompagner et créer des albums avec elle. Ouais.
Ouais. Et puis c'était la première fois que je faisais vraiment une bande dessinée à proprement parler, avec des cases et des bulles, etc. Et que j'étais payée pour ça. Donc c'était
une bonne nouvelle. Ouais.
Et c'était une commande, mais c'était super parce que quand on m'a proposé de le faire, quand le magazine m'a proposé de faire ça, parce que je faisais des illustrations pour eux, ma première réaction, ça a été de leur dire non parce que je pense que je suis pas capable. En fait, je suis pas auteur de BD. Je dis ah non, mais vous confondez. Moi, je peux pas faire ça parce que je sais pas écrire des histoires. Et donc, je leur avais dit ou alors vous me trouvez quelqu'un qui écrit les histoires et moi je fais les dessins. Et la directrice artistique de ce magazine, qui est une femme formidable, m'a dit ah oui, écoute, ce qu'on fait, c'est que pour l'instant, on n'a pas le temps de chercher quelqu'un. Donc commence, essaye d'écrire un peu et après on verra. Tu vois si ça marche pas.
Et, ouais.
Et donc en fait, au bout de 3 pages, je me suis dit, alors je suis toujours pas sûre que je sache écrire des histoires, mais en tout cas, je trouve ça marrant de le faire et j'ai pas du tout envie que quelqu'un vienne écrire une histoire pour moi. Donc en fait, non, on va pas prendre quelqu'un. Et puis, et clairement, ça a été 3 tomes, Joséphine. Et j'ai appris à écrire une histoire pendant les 3 tomes. C'est vraiment comme ça que je le vois
en
maintenant quand je les regarde, c'est que j'ai appris quoi.
Et prendre un personnage féminin en plus, tout d'un coup, décider que ça sera l'héroïne des albums, que ça sera à travers son regard qu'on va voir tous les événements de la vie, ça aussi c'était un choix qui n'était pas si récurrent à l'époque.
Alors je vais pas mentir, je crois que ça faisait partie du brief,
ouais.
On m'a dit trouve un personnage récurrent. Mais moi ça m'a, en fait le fait de me dire, ça va c'est pas une vraie, je parle pas de moi parce que j'ai trouvé un personnage.
Ouais.
En fait je pense que j'ai aussi apprivoisé l'idée de raconter mes propres histoires en me disant, ben non regardez elle est blonde, elle a des lunettes, donc clairement ça
c'est pas moi,
c'est de la fiction. Et donc c'était assez pratique aussi. Ouais.
On passe à l'année 2013. On va parler d'Angoulême, Pénélope, parce que Pénélope, c'est Angoulême, c'est le centre du monde, c'est bien connu. Pour le 40e festival de la bande dessinée, vous êtes nommée chevalier des arts et des lettres par la ministre de la Culture de l'époque, c'était Aurélie Filippetti.
C'est
une distinction. C'est pas l'ours ni le flocon, c'est quand même l'insigne de chevalier des arts et des lettres. Est-ce que vous êtes sensible à ce genre d'honneur?
Moi, j'aime toujours les pins, hein. Ça n'a pas changé. C'est marrant, j'avais jamais fait le lien de la continuité, mais c'est vrai que c'est encore une broche,
et
encore
oui.
Un truc accroché et que
vous le dites
coup,
dans l'album
contente,
que vous adorez les pins.
J'adore les pins, mais c'est vrai que j'avais pas pensé que celui-là c'était un peu le chef des pins, quoi.
Un méga pins.
Le chef des pins.
Surtout que la broche est énorme avec un ruban, avec une grosse croix et tout. Après, on a la version portative qu'on peut mettre à la veste pour les. J'ai jamais d'occasion de la mettre, mais voilà.
Et qu'est-ce que vous avez organisé une fête pour ça?
Mais non, rien du tout.
Comment ça?
Bah non.
Ouais, même pas une fête pour célébrer.
Même pas un brunch, rien.
Même pas. Même pas un peu de Britney en fond sonore pour bouger les cheveux.
Si. En fait, je serais à me souvenir que le soir même dans un bar à Angoulême avec l'éditeur, on a toasté quoi.
Enfin, Ah oui, juste trinqué comme ça pour le méga pins, pour le chef des pins.
Ouais, bah là-dessus, c'est la BD, hein. C'est pas, pas de budget, pas de. On trinque au mauvais blanc. Non, c'est.
Et oui, d'accord. Et cette même année, vous publiez avec Joanne Sfar le premier tome de Stars of the Stars.
Premier et dernier.
Oui, c'est ça, vous n'avez fait qu'un seul, j'ai pas osé le dire, mais voilà, l'album, Star of the Stars. Et là, Joanne s'occupe du scénario et vous, des dessins. Est-ce que c'est une expérience que vous auriez envie de recommencer, de ne pas être complètement maître de tout, puisque vous faites tout, dessin et texte.
Alors pas du tout, parce que ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais pas ne pas écrire. voilà. Mais c'était tellement, j'ai appris tellement de choses en faisant, ne serait-ce qu'un livre avec Johan Sfar.
Qu'est-ce que vous avez appris avec lui?
Plein de trucs techniques en fait, qui pour lui sont super naturels et il part du principe que tout le monde le sait, et pas du tout. Donc il dit beaucoup de choses du genre. Bon, je vais pas te dire que si tu veux que ta page tienne, il faut que tu fasses tel truc parce que j'imagine que tu le sais. Et non, je ne le sais pas. Donc...
alors, mais il est chiant pour ça, genre, je ne le sais pas. Ou on fait... ah oui, oui, bien sûr.
Non, parce qu'on avait un rapport hyper clair maître-élève qui était vraiment sans ambiguïté, quoi. Donc plutôt, ça, j'assumais assez bien de lui dire tu vois, non, je savais pas du tout.
Ouais.
Mais c'était agréable parce que malgré ce rapport un petit peu maître-élève qu'on pouvait avoir, surtout que c'était mon directeur de collection, donc c'était vraiment très un nœud de rapport hiérarchique. Il m'avait dit, j'ai vraiment envie de faire ce livre avec toi parce qu'il n'y a que toi qui peux dessiner cette histoire. Moi, je ne saurais pas le faire, j'ai besoin que ce soit toi qui le fasse. Donc ça met quand même une ambiance plutôt chouette pour travailler avec quelqu'un qu'on admire, quoi.
Mais du coup, pas du tout envie de recommencer ce genre de duo, en fait.
Mais en fait, par la suite, j'ai dit d'accord pour pas mal de projets qui étaient écrits par d'autres gens parce que souvent, c'est hyper enthousiasmant au moment où on en parle. Et je me dis, oh, l'histoire a l'air géniale, j'aurais jamais pensé à cette histoire moi-même, donc allons-y. Sauf qu'au moment de commencer à la dessiner, j'ai pas envie en fait parce que je me rends compte qu'il manque la partie que j'aime le plus qui est la mise en scène. En fait, ça, du coup, à quoi bon si c'est juste faire des dessins? Je suis pas une très bonne dessinatrice dans le sens, je suis pas techniquement une super dessinatrice. Moi, ce que j'aime, c'est ma façon de raconter les histoires. Si on m'enlève ça,
mais une collaboration avec quelqu'un de bien, pas Johan Sfar.
Vous l'avez vraiment trop vu. On accueille Jean-Christophe Augier qui est journaliste spécialiste de bande dessinée de France Info. Bonjour Jean-Christophe. Vous présentez BD bande dessinée chaque dimanche sur France Info et c'est un plaisir à chaque fois de suivre vos recommandations.
Merci.
On va parler de bande dessinée bien sûr aujourd'hui avec Pénélope Bagieux. Se raconter en bande dessinée ce que fait Pénélope avec les strates, c'est un exercice à part.
Oui, alors quand vous m'avez proposé de réfléchir à ça, je me suis dit, mais ça vient de quand cette affaire? Et en fait, ça vient du moment où la bande dessinée est devenue adulte, c'est-à-dire dans les années 60, après 68, finalement, on a peut-être encore en mémoire à la fois ce que pouvait faire un Crumb du côté des États-Unis ou, par exemple, Gottlieb en France qui se représentait, alors certes pour déconner, mais aussi pour se raconter, quand il se raconte son enfance d'enfant juif pendant la guerre, ça y est, on est parti sur cette voie-là. Et puis il y a eu Maos qui a évidemment impressionné tout le monde parce que c'est de la biographie familiale et de l'autobiographie. Et il y a donc cette veine qui a été défrichée. Puis après, je me suis dit, mais est-ce que c'est plutôt... Pourquoi? Qui peut le faire? Alors je me suis dit, il faut avoir quelque chose un peu spécial à raconter. Ouais. Sinon, c'est vrai. D'ailleurs, par exemple, je sais que Pénélope Bagieux a un goût tout particulier pour ce livre que je tiens en main qui s'appelle Fun Home, une tragicomédie familiale d'Alison Bechdel. D'ailleurs, il y a marqué derrière, Fun Home est ma nouvelle BD préférée de l'univers signée Pénélope Bagieux. Ah, c'est marqué derrière le livre.
C'est vrai de verbaliser des choses qui ont été dites à l'oral.
mais c'est vrai, vous revendiquez encore et toujours ce livre comme étant majeur.
Et pourquoi? Pourquoi ce livre?
Je suis très mauvaise pour expliquer pourquoi j'adore les livres, mais il m'a fallu. C'est intelligent, très intime, et pourtant, même si elle a une situation assez particulière, puisque je ne sais pas à quel point vous aviez l'intention de raconter le livre, je ne veux pas vous couper l'herbe sous le pied.
Je vous en prie,
Elle grandit quand même dans un funérarium, avec des parents quand même qui ne s'entendent pas bien du tout, et elle fait son coming out en même temps. Et elle arrive à vraiment tellement réfléchir sur elle-même et à rendre ça tellement sensible, intelligent et bouleversant que quand j'ai fini de lire ce livre, j'ai eu besoin d'une pause de deux heures où je voulais que personne ne me parle. J'avais besoin de continuer à digérer ce livre et tous les gens à qui je l'ai offert ont été bouleversés.
D'où le fun home, funérarium home, autant que drôle parfois. Alors après, je me suis dit, on a des exemples comme ça en France, je me suis dit, mais non, pas forcément, parce que par exemple, quand on voit un Lewis Trondheim avec ses petits riens qui racontent des petits moments du quotidien, mais vraiment d'une banalité incroyable et qui nous passionne, qui nous font rire, bref. C'est un regard, c'est un style, c'est le talent qui permet de se raconter. Après, une fois qu'on a dit ça, je me dis, mais pourquoi ça nous intéresse, nous? Parce que vous, je vous ai écouté, là, depuis tout à l'heure, dire à Pénélope, oh, je m'y retrouve, même Monsieur Morin se retrouvait apparemment dans ces affaires-là.
L'universalité de ce livre.
Je le vois pourtant assez mal, mais bon, c'est pas grave.
Je suis en pleine déconstruction.
Toujours est-il que je me suis dit, c'est vrai, il y a de ça, il y a cette volonté de s'identifier à travers le regard de quelqu'un d'autre, mais il y a aussi un côté voyeur, c'est-à-dire d'aller chercher chez les autres ce qu'on ne connaît pas et d'essayer de voir l'intimité de quelqu'un profondément. Donc finalement,
en tout bien tout honneur quand même.
parfois ça va très loin. Je confesse, puisqu'il faut être là, que une de mes bandes dessinées autobiographiques préférées, c'est le journal de Fabrice Nau, qui est un jeune homme d'Angoulême qui a écrit son, alors 4 tomes épais, mais que des briques vraiment, et lui aussi fait son coming out, même plus que ça, il assume totalement son parcours de jeune homosexuel à Angoulême. C'était il y a déjà au moins 20 ans, cette bande dessinée-là, ces bandes dessinées-là. Et moi qui suis, comme on dit maintenant, cis, genre, hétéro, vraiment, voilà, j'ai compris le désir homosexuel dans la manière dont ce garçon dessinait la nuque d'un garçon avec tous les poils qu'il pouvait mettre exactement au bon endroit. Tout d'un coup, j'ai compris quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a vraiment, le talent permet de faire passer une intimité absolue dans le regard de l'autre.
Et ça se vend bien aussi, ces récits autobiographiques. Cette curiosité dont vous parliez fait que, concrètement, en librairie, ça
c'est
part plus vite.
C'est vous qui posez la question, alors vous recevez Riyad Satouf tous les 4 matins dans l'Arabe du futur.
Mais oui. Non, mais c'est pour vous donner l'occasion de répondre,
Sfar, surtout. Qui est un spécialiste également de la chose, ouais. Quoi qu'il arrive. Oui, je crois que... Alors, ça se vend bien. Ça se vend bien. Il y a beaucoup... C'est comme tout. Il y a énormément de bandes dessinées autobiographiques. Il y a des bonnes et des moins bonnes. Mais il y en a beaucoup. Je me suis dit, est-ce que c'est plutôt les garçons, les filles? Non. Il y en a autant chez les garçons que chez les filles. C'est quelque chose, je crois, aujourd'hui de majeur et qui prouve peut-être justement que cette bande dessinée-là est devenue très adulte.
Merci à vous, Jean-Christophe Augier. Je rappelle le BD Bande Dessinée chaque dimanche sur France Info. Le héros du jour, quel est-il, notre cher Daniel
Morin?
Oui,
absolument. Alors, aujourd'hui, 20 décembre, à 4 jours de la distribution des jouets, j'ai une pensée pour Jean-Claude, le lutin chef d'atelier du Père Noël, qui est au taquet sur les chaînes de montage, avec les Chinois qui sont à la bourre pour livrer les microprocesseurs, et certains salopards de lutins gilets jaunes syndiqués qui ne demandent qu'à bloquer la production. Il vit des heures difficiles, Jean-Claude. Alors, bien sûr, il aurait pu être mon héros du jour, bien sûr, cependant, il ne l'est pas. Non, aujourd'hui, point de Laponie. Les amis, aujourd'hui, pour mon héros du jour, direction le Mexique. Pourquoi le Mexique? Eh bien, tout d'abord, parce que j'ai une passion pour le tiers-monde. Et aussi, parce que je le sais, Leïla, vous êtes amatrice de guacamole mou et de drogue dure. Mon héros s'appelle Marlon, et je le trouve héroïque, parce qu'à seulement 11 ans, Marlon est un tatoueur reconnu et apprécié dans le salon de son père. C'est formidable, car oui, on en a marre des traditionnels motifs tribaux, des pin-ups délavés, des portraits de légendes genre Che Guevara, Ben Laden, Zidane ou Émile Louis, des dragons, des fleurs, des prénoms de fiancés qui souvent vous quittent, l'encre à peine séchée. Avec Marlon, un vent de fraîcheur s'abat sur le tatouage. Avec Marlon, c'est... Céline Trotro sur un biceps, c'est Dora l'exploratrice sur une épaule, c'est Bob l'éponge dans le dos, c'est Oui Oui sur la fesse, si on a des petites fesses, sinon c'est Casimir. Oui, sur le tatouage souffle une brise enthousiaste, matinée d'innocence. Et le succès de Marlon, les amis, ça va au-delà de ses compétences tatoueuses. Oui, bien au-delà. Et n'en déplaise à beaucoup, à 5 jours de Noël, je n'ai pas peur de réclamer le retour des enfants au travail. Les gosses au travail, c'est des gosses qui apprennent un savoir-faire, qui ne sont pas en déshérence, qui ne regardent pas W9 ou Energy 12. Ils savent souder une batterie d'iPhone, ils savent coudre un ballon Nike, ils savent confectionner une robe Zara. Ils ont une qualification. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en appelle solennellement à Elisabeth Borne, notre ministre du Travail. Elisabeth, Zaza. Comme on le voit au Mexique, avec l'exemple fulgurant de Marlon, 11 ans, tatoueur épanoui et à succès, donnons une chance aux gosses, une chance de s'épanouir loin des schémas débiles que nous leur offrons. Avec le travail forcé des gamins, ils passeront de l'enfance à l'âge adulte, une transition qui leur permettra de zapper une adolescence qui, disons-le franchement, est source de mal-être pour eux et de déception pour leurs parents. Madame la ministre, cette réforme nécessite une nouvelle loi dans le Code du Travail, une nouvelle loi qui pourrait porter le nom de mon héros, la loi Marlon. Une loi qui serait un pas de géant dans l'épanouissement de notre jeunesse, ainsi qu'une formidable relance de la formation pour que les futurs adultes deviennent pré-travailleurs et non pré-chômeurs. À tous ceux qui vous diront « les enfants ne doivent pas travailler, ils doivent aller à l'école », répondez-leur
Augustin Trapenard, il a été à l'école, regardez ce qu'il est devenu, ça calmera tout le monde.
C'est moche.
En plus, croyez-moi, les enfants n'attendent que ça. Ils en ont marre d'être pris pour des cons. Cessons de parler aux enfants comme à des gosses.
Bravo Daniel. Bravo Daniel Morin, on est toujours sur France Inter avec Pénélope Bagieu. Et Tanguy Pastureau, tout à l'heure, vous allez nous parler de quoi ?
Eh bien, je vais vous parler de l'albatros à sourcils noirs, figurez-vous, qui est monogame, sauf que le réchauffement climatique perturbe leur sexualité. Ils se mettent sur toute la journée, mais comme ils ont des pattes griffues, ça fait mal.
On a hâte de découvrir cette deuxième partie. On continue de parler des strates avec Pénélope Bagieu aux éditions Gallimard. Le retour de la bande originale avec Morgane Cadignan, avec Laurence Mendes, Tanguy Pastureau, Tom Villa, Daniel Morin et notre invité, la merveilleuse Pénélope Bagieu. Pénélope et les strates chez Gallimard, le nouvel album à vous procurer d'urgence pour vous promener comme ça dans les années de son enfance, de son adolescence, la nôtre aussi, avec des mésaventures, bien entendu, des chagrins d'amour. Ça fait partie du chemin, hein, on n'y échappe pas. C'est aussi rassurant de se dire qu'on a tout été un peu largué à certains moments, un peu. Non mais c'est
on
ça.
Continue.
On peut continuer à être un peu largué, mais on voit aussi une jeune fille qui par la force de la volonté, parce que ça aussi c'est un enseignement de cet album, décide d'arrêter de sucer son pouce par exemple, et on a l'impression que vous avez une détermination vraiment chevillée au corps. En quoi elle vous est encore indispensable aujourd'hui?
Pour arrêter de fumer, c'est pareil, hein. J'ai fait la même chose. Moi, je me suis prise à plusieurs fois.
Non, ça m'intéresse.
J'ai une super technique que je peux te livrer en off.
Mais c'est de passer au cannabis. Alors vraiment,
L'héroïne, tu ne penses pas se faire devenir la clope.
Non, dans le travail.
Dans le travail, ouais. Après, je suis pas non plus super à l'aise avec l'idée de la volonté qui peut tout surmonter, parce que j'aime pas trop le truc de quand on veut, on peut. Quoi. Ouais. C'est quand même une vision dont on revient assez vite.
Oui, par exemple, moi, je joue vachement à l'euro million et pourtant, je peux pas gagner. Quoi.
C'est ça. Puis voilà, il y a quand même aussi un peu une question de milieu et de choses qui encouragent. Mais pour ce qui ne dépend que de moi, je suis capable de bien me botter les fesses pour des trucs, quoi, quand je sens que je les veux vraiment. Mais toujours parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Oui. Donc, c'est vrai que ça... Puis il y a un truc d'ego. Je pense à ça par exemple par rapport au permis de conduire, parce que je conduis pas. Et c'est le running gag de tout le monde depuis des années de me dire quand est-ce que tu vas t'y mettre. Et comme j'ai 40 ans dans quelques jours, ça devient vraiment quand même un peu ridicule et il faudrait vraiment que je passe mon permis. Et je sais que la seule motivation que j'ai vraiment, c'est de me dire il y a tellement de gens qui savent conduire et toi tu n'apprends pas en fait. Donc
c'est pas que vous avez déjà échoué au permis, c'est que vous n'êtes jamais lancé en fait.
C'est compliqué. J'ai comment ça mon code. Ah voilà. Après, j'ai laissé trop de temps passer. Ah, bon, c'est
un déménagement.
Mais est-ce qu'au fond on veut vraiment conduire ? Est-ce qu'on veut vraiment à tout prix conduire ?
Mais justement, non, je m'en fous. Voilà. Sauf que ça m'énerve de me dire. Donc en fait, la moitié des gens du monde savent conduire et toi non.
Mais la moitié des gens du monde sont là pour vous conduire.
Ouais, mais ça commence à avoir ses limites quand même. Je me dis que c'est vraiment fou quoi que je fasse pas ça. Alors
c'est de l'ego en fait.
C'est un peu de l'ego.
Ouais. C'est de l'ego pas forcément toujours bien placé par conséquent.
Bah surtout pas toujours très utile, parce que mettre toute son énergie à part de l'apprendre à conduire, bon, c'est chose la plus importante. Mais pas toujours bien placé. Si, parce que par exemple, j'ai pas du tout un truc de compétition. Je veux pas être la meilleure, la première. Je déteste tous les trucs où il y a des classements.
Vous avez dû être malheureuse à l'école alors.
Bah ouais, carrément. Bah de toute façon, globalement, oui. Hein. Mais en plus, j'étais plutôt mauvaise, vraiment. Et le truc qui était pour moi la source d'angoisse numéro un, c'est quand on rendait les interros par classement de notes. Ouais. Et je comprenais pas l'intérêt de faire ça. De dire, et la dernière, Bagieu, 3,5. Je dis, mais pourquoi vous faites ça, en fait? Ça fait juste que je me sens une merde, en fait.
Celui qui devait, à mon avis, caracoler en tête à l'école, c'est Tanguy Pastureau.
Oh non.
Ah bon?
Détrompé.
Caracole.
Mais tu caracoles, toi, pourtant.
Alors, je sais pas si vous connaissez l'albatros à sourcils noirs. C'est un animal fascinant. Non. Il ressemble à Raymond Domenech, mais avec des plumes. L'albatros à sourcils noirs se nourrit de calamars et de crustacés, comme ta sœur quand elle part en week-end à Dieppe. Et il a, au niveau des narines, une glande de dessalage qui lui permet de boire boire l'eau de mer. Écologiquement, c'est un plus parce qu'il n'a pas acheté de cristalline. D'ailleurs, chez Leclerc, il n'y a pas un albatros. Sinon, l'albatros à sourcils noirs est monogame. Hein, au départ, plein d'illusions. Il se dit toute ma life, je vais aimer la même. Enfin, les jeunes albatros essayent de se rouler les pelles. Mais à cause de leur bec, ils se blessent s'ils le font. Donc, très vite, ils se tournent vers la bouffe. Hein, comme tous les gens qui n'ont plus de libido. C'est pour ça que chez nous, les jeunes peuvent survivre avec un demi-sandwich Subway sur 3 jours. Leur énergie sexuelle maintient leur corps entier en érection et que les plus vieux ne pensent plus qu'à bouffer. Alain Duhamel n'a pas fait l'amour depuis 83. Hein, mais par contre, il fait une très bonne blanquette. Tout ça pour vous dire que l'albatros à sourcils noirs est monogame. Ils se rencontrent, tombent amoureux, se disent « waouh waouh » dans un creux de rocher qui fait office de chapelle et ils font des bébés albatros. Sauf que l'homme, cette enflure, cette aberration de la nature, à part Faustine Bollard qui est super parce qu'elle écoute les gens, d'accord ? L'homme a tout gâché. À cause de lui, il y a le réchauffement climatique, cette horreur qui fait chouiner Greta Thunberg et nuit à l'industrie du soupule, à moins que Damar se repositionne sur le secteur du string, ils sont foutus. Et le réchauffement, j'ai lu ça sur le site Futura Science, perturbe la sexualité des albatros. Non. Avant, il avait déjà perturbé celle de Nicolas Hulot. Hein, ou c'était lui tout seul qui s'était perturbé, bon, on ne sait pas. Alors figurez-vous que les albatros divorcent à la chaîne. Des chercheurs les ont observés dans les îles Falkland. C'est tout au sud. Hein. Vous voyez les Sun. Bon, bah, c'est plus au sud. Hein, quand vous arrivez sur Perpignan, on vous dit il y a encore un bout de route. Hein. Ils les ont observés de 2004 à 2019. Donc si vous pensez avoir une vie pourrie, dites-vous qu'il y a des gens qui passent 15 ans à regarder des albatros. Et le résultat de ces recherches est clair. Les albatros qui avant restaient sagement en couple, comme Pierre Arditi et Evelyn Bouix, mais en moins axés sur la social-démocratie, bon, se séparent. Oui, c'est une triste histoire qui défonce l'esprit de Noël et le retourne. Mais alors, va me dire Daniel Morin, qui est très branché amour, dès lors qu'il y a 15 personnes avec des accessoires en caoutchouc et que le château est correctement référencé sur Google Maps. Pourquoi les albatros divorcent-ils ? Eh bien, c'est simple, comme désolé, je te fais une bise, il y a le Covid. Je te fais pas de bise, il y a le Covid, c'est le nouveau simple comme bonjour. C'est parce que chez les albatros, quand le couple peine à faire des petits, ils se séparent. Parce que les albatros sont basiques, les sentiments, ils s'en cognent. Si vous faites lire du Alexandre Jardin à des albatros, ils vous répondent ouais, bof. Hein, ils ne pensent qu'à procréer, afin que partout il y ait des albatros, pour à terme dépasser en nombre les mouettes. C'est le grand remplacement. Et si le couple n'arrive pas à enfanter, la femelle prend la décision de partir pour choisir un autre mâle. Car il y a, disent les chercheurs, une grande compétition intrasexuelle chez les albatros. En gros, autour de chaque couple qui procrée, il y a 10 mâles qui attendent, comme au Cap d'Agde l'été pour nous. Et tous espèrent que le couple foire, pour vous dire la mentalité des albatros. Hein, cet été, jetez-leur des gaufres cyanure à ces enfoirés. Et c'est là que le réchauffement climatique a un effet. Parce que les températures, bon, de l'eau se réchauffent. Hein, le pôle sud, c'est en train de devenir le nouvel Ibiza. David Guetta y est déjà en résidence. Hein. Pour l'instant, il mixe à perte, puisqu'il n'y a que des manchots et que ceux-ci refusent le principe de l'argent. Ils doivent être à lutte ouvrière. Mais ils misent sur l'avenir. Donc l'eau se réchauffe, si bien que le poisson se fait plus rare, que l'albatros mâle, qui n'est pas encore déconstruit, c'est lui qui doit pêcher, galère pour apporter de la nourriture au nid, donc il est crevé. Et ça joue sur sa reproduction, comme nous. Hein, ceux qui travaillent beaucoup, le soir venu, ont plus envie de se vautrer devant TPMP que sortir l'huile de massage en disant à l'autre bébé, tu m'as manqué depuis samedi. À l'inverse, Benoît Hamon, qui fait plus trop rien, est certainement le meilleur coup de toute l'Europe, Italie comprise. Bref, l'albatros qui est épuisé entre en burn-out, tel un footballeur de l'équipe de France si on lui demandait de faire les mots croisés du monde, et sa femelle en temps normal monogame se barre parce qu'elle est programmée par la nature pour perpétuer l'espèce. C'est pas qu'elle a un mauvais fond, hein. C'est juste qu'elle doit débiter des œufs au même rythme qu'allouer dans la Sarthe pour que sur le total il y ait des naissances d'albatros. Donc n'allez pas leur parler d'avortement à ces cons-là, hein. Ils ne comprendraient pas. Les albatros sont des provis malgré eux. Et c'est là qu'on voit qu'être un albatros à sourcils noirs est un enfer. Puisque nous, au pire, il y a les parents qui nous poussent parce qu'ils veulent être papy et mamie, hein. Mais si ça se fait pas dans la semaine, ils vont pas débouler dans le salon avec 17 mecs en disant voilà chérie, à toi de jouer, on part acheter un couffin chez Nathalie. Quand on revient, on veut que ce soit fait. Hein, ok, je sais qu'il y a une pression dingue qui est mise sur les femmes pour qu'elles fassent des gosses. Mais à côté de l'albatros femelle à sourcils noirs, c'est rien. Et nous, les mâles, au premier dysfonctionnement érectile, on n'est pas viré de son couple. Au contraire, c'est là qu'on apprend l'existence de la tendresse. Ouf, nous ne sommes pas des albatros à sourcils noirs, mais des humains à sourcils tous différents. Ça dépend, en fait, il y a ceux qui se l'ont fait faire chez Marionneau et puis les autres, enfin voilà. Au revoir.
Pénélope Bagieu, comment réagir après ça? Les Strates aux éditions Gallimard. Il y a un épisode dans cette bande dessinée qui est vraiment émouvant, et quand on a lu Sacrée Sorcière, on reconnaît un personnage avec les mêmes traits, c'est le personnage de la grand-mère. Vous étiez venu nous parler de Sacrée Sorcière. Ça y est, déjà, Morgane a les larmes aux yeux. Voilà. Mais on peut pas, c'est un tellement beau moment, en fait, dans cette bande dessinée, même si c'est hyper triste. C'est les adieux. Parce que c'est aussi ça, cette période d'adolescence, on a l'impression, ou de jeune adulte, c'est savoir dire au revoir à ceux qu'on a aimés le plus.
Ouais, puis se dire que, même si c'est très, très dur, en l'occurrence, moi j'ai eu le temps de vraiment dire au revoir à ma grand-mère longtemps, longtemps, puisqu'elle était hospitalisée longtemps et que j'étais adulte. Donc, donc on a eu le temps de vraiment analyser le deuil. C'est qu'elle m'a expliqué comment ça allait être après. Et moi j'avais vraiment un refus, j'étais comme un bébé, quoi, à dire. Mais on va trouver une solution, tu vas pas mourir, etc. Bon, un peu dans le déni. Et puis en fait, elle m'avait dit, mais tu verras que, en fait, je vais continuer à t'accompagner tout le temps. Et ça me paraissait vraiment être
une phrase de grande personne pour réconforter
ouais,
les petits.
Un truc un peu d'illuminé, quoi. Ouais. Un peu grand-mère feuillage, de dire, je t'accompagnerai partout. Ça m'énervait. Et en fait, elle avait assez raison. C'est-à-dire que elle a imprimé quelque chose pendant les 25 premières années de ma vie, qui en fait me quitte pas après. Et c'est pour ça que je voulais aussi finir là-dessus. Dans le livre, c'est, pour moi, c'est pas du tout une histoire triste. C'est ce qui explique toute la tendresse et l'amour que j'ai reçu pendant la première moitié de ma vie, on va dire. M'accompagne après tout le temps pour la suite. Et c'est quand même une force incroyable.
Et c'est un personnage que vous avez envie de revoir dans d'autres albums, lui donner une place à chaque fois, comme une sorte de clin d'œil.
Coccinelle de Gottlieb,
bah ouais,
ma grand-mère.
Bah ouais, cet ange protecteur un peu.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de l'avoir dessinée dans Sacrée Sorcière, puisque c'est un peu elle, la grand-mère, que j'ai dessinée dedans, c'était égoïstement assez chouette, parce que du coup je l'ai dessiné pendant un an et je l'ai vraiment convoqué pendant un an. C'était, mais du coup c'était assez dur aussi émotionnellement, parce que parce qu'en vrai elle était pas là, donc c'est un peu comme se trimballer une photo de quelqu'un tout le temps et regarder des vidéos de quelqu'un qui est plus là, quoi. Au bout d'un moment ça a quand même ses limites, et mais c'est cette chance aussi de pouvoir dessiner les gens, c'est qu'on peut les faire revenir un peu avec nous.
Ruez-vous sur l'estrade de Pénélope Baggio aux éditions Gallimard, ça fera un très très joli cadeau de Noël notamment. Et tout de suite sur France Inter, on écoute Célassou, Hooray. Look at you now, got the whole world staring at you. You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. Every minute, every day, it's so hard to get away, get away, get away, get away, yeah. Nobody says about me. I'm judging everybody when I'm just as guilty. Get away, get away, get away, get away, yeah. Nobody says about me. I want nobody to see. I'm just as guilty. And so please, come on and say it, rip it, hooray. For you, and your attention seeking, and you live for the lies. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache. Thank you so much. C'est la sous sur France Inter et la magie de la radio, c'est qu'en même temps, il y a Pénélope Bagieu pour les strates aux éditions Culottées. Que se passe-t-il d'autre dans le monde de la culture? Ah ouais? J'ai dit édition culottée.
Chez Gallimard.
C'est culottée chez Gallimard. Tout est chez Gallimard.
Oui, j'adore les éditions culottées.
Les éditions. On pourrait créer une maison d'édition, les culottées. Bon, on parle surtout de ce qui se passe dans le reste de la culture. On va parler d'un monstre de la réalisation qui vient d'annoncer travailler sur son dernier film avant sa retraite.
Spielberg.
Non. Scorsese. Le film s'appellera Comment vivez-vous? C'est le cinéaste japonais le plus célèbre. Bravo, c'est Miyazaki.
Pour la 10e fois, annonce que c'est son dernier film.
C'est ça.
Là, c'est Aznavour, alors, quoi.
C'est son 12e et dernier. Voilà comment il l'a vendu. Comment vivez-vous? Il a quand même 81 ans, ce monsieur. Il dit qu'il a décidé vraiment d'arrêter. Alors, est-ce que c'est voilà, c'est ça.
Est-ce que
il revient, il repart, on ne sait pas. Est-ce que c'est un cinéma que vous aimez, le cinéma de Miyazaki?
Oui. Oh là là, bien sûr.
Que vous continuez à regarder?
Ouais.
Adulte.
Ouais, j'irai voir son soi-disant dernier film.
Et la retraite, prendre sa retraite pour un artiste, pour un dessinateur, est-ce que c'est quelque chose qu'on projette vraiment dans sa tête à un moment?
Bah, j'imagine qu'il y a un moment où physiquement on est un peu, il y a un moment où je vais moins bien voir, j'imagine, où mes mains vont moins. Je vois, et après, je vois parfois des dessins de Quentin Blake et je me dis, oh non, en fait, c'est bon, on est tranquille.
Ouais, faut continuer.
Il dessine toujours de mieux en mieux à je sais pas quel âge. Donc.
Vous voyez, âgé, continuant de dessiner et de faire des albums, est-ce que vous vous projetez comme ça?
Ouais, moi je me vois plus travailler vraiment très peu, hein, quand même, quand je serai vieille. Avoir plutôt 40 chats et faire des tartes, quoi. C'est ça mon projet.
Vous connaissez le pass culture, ce pass de 300 euros pour les moins de 18 ans. On vient de connaître les livres qui avaient été les plus achetés grâce à ce pass. Est-ce que vous avez
les
une
mangas.
Idée du résultat? Ouais. Aux 12 premières places, ce sont des mangas, c'est complètement fou.
One Piece,
Demon Slayer, l'attaque des Titans par exemple, et puis forcément les légendaires Naruto qui font partie du classement. C'est aussi un genre que vous lisez beaucoup.
Que j'ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune, enfin je dis ça non, comme même aussi jeune adulte.
Ouais.
Mais oui, et puis qui a ouvert un champ de possibles, il y avait des héroïnes quand même dans le manga, ce que je trouvais pas forcément dans la BD quand j'étais plus jeune. Et puis c'est le côté très feuilletonnant sur le long terme, c'est quand même quelque chose qu'on ne trouve pas tellement dans la BD.
One Piece vient de sortir le numéro 100,
ouais.
il y a 10 jours.
C'est bon. Ça. Mmh.
Vous êtes du genre collectionneuse comme ça aussi pour les albums, au-delà des mangas?
Ah, j'essaye d'être un peu Marie Kondo sur les livres, mais c'est l'échec.
Ça veut dire,
d'en avoir pas trop.
Ouais.
Mais à la fois, quand on commence à avoir une belle collection, notamment dans les mangas, on a envie de les mettre côte à côte dans le bon ordre. Oui, quand on est un peu obsessionnel. Ouais.
Et à l'approche des fêtes, moi j'ai toujours besoin de conseils BD, de conseils pour offrir ou pour lire, même pour soi. Qu'est-ce que vous recommandez en ce moment, Pénélope?
Les strates, déjà.
Les strates, c'est pas mal.
Les strates, c'est pas mal, mais ça, qu'on l'a déjà dit. C'est aux éditions culottées, Gallimard.
Non,
c'est
ça.
C'est une sous-édition de Gallimard, c'est l'édition culottée. Les culomards. Ouais.
Qu'est-ce que j'ai lu de bien? J'ai lu tellement de bonnes BD récemment.
Parce que là, on a noté Fun Home, que nous a recommandé Jean-Christophe Augier, donc ça, on valide.
Ça, c'est pour toujours.
Pour toujours.
On peut toujours l'offrir, c'est super. Qu'est-ce qui est bien? La dernière bande dessinée de Catherine Meurice.
Oui.
Qui s'appelle La jeune femme et la mère.
Absolument, on a reçu Catherine à ce micro pour en parler.
C'est très très beau, ça donne très très envie de voyager, en fait, ça donne très envie d'aller au Japon.
Quand on parle du monde de la bande dessinée, des auteurs entre eux, et des femmes aussi entre eux, quel rapport vous avez ensemble? J'ai un souvenir de vous à Angoulême, et de vous réunis avec plein d'autrices, et de se rendre compte que vous avez partagé à ce moment-là les vraies mêmes problématiques de ce métier, vous n'étiez pas seule. Est-ce que ça continue encore? Est-ce qu'il y a une sorte de guilde de filles?
J'aime bien que ce soit une guilde, un petit côté nerd, ça fait plus plaisir que club. Je pense que comme dans tous les métiers où on est moins nombreuses et où on nous rappelle quand même régulièrement qu'on est à part, oui, on a une forme de soutien, de s'envoyer de la force, comme disent les jeunes.
Ouais.
Et aussi, il y a quelque chose qui n'est pas volontaire. Par exemple, je disais, j'ai lu plein de bonnes BD récemment et je les ai vraiment achetées parce que la couverture était belle ou parce qu'il y avait marqué coup de cœur des libraires, etc.
Ouais.
Et en fait, je n'ai pas fait exprès, mais il se trouve que j'ai acheté exclusivement des autrices et une énorme majorité de premiers livres de jeunes autrices. Et c'était d'une qualité incroyable. Donc, au-delà de se serrer les coudes, il se trouve...
Ouais.
Qu'on fait les meilleurs BD, quoi.
Ouais.
Voilà.
Non, mais vous venez de dire que vous êtes encore mis de côté. On parle plus vraiment de BD pour filles. On a cette histoire de genre là qui est longtemps BD pour filles, BD pour garçons. C'est moins le cas, j'ai l'impression aujourd'hui.
Et pourtant, on dit toujours quand même en préambule, et tout le monde peut s'y retrouver, même les hommes. Hein. Est-ce qu'on dirait ça d'un BD avec un héros garçon? Est-ce qu'on dirait, et vraiment même quand on est une fille, on peut accrocher. Donc non, en fait, mais c'est bien plus large que la bande dessinée. Ce problème là, c'est le masculin neutre, quoi. Il faut quand même en venir à bout.
Et un autre coup de cœur à part celui de Catherine Meurice et l'Estrade, bien sûr.
Qu'est-ce que j'ai lu de super aussi? C'est plus, j'allais dire c'est plus niche, mais en fait ça l'est pas du tout, et c'est assez bizarre comme. Je suis pas sûre qu'il soit de nouveau disponible, parce que vous savez, on a un petit problème d'approvisionnement de papier dans la bande dessinée qui fait qu'on est tous un peu sur le fil là. Mais j'ai lu une BD qui m'a fait pleurer de rire, ce qui m'était pas arrivé depuis un moment, qui s'appelle Fun Girl, disons que de trucs en fun, de Elizabeth Peach, je crois, au requin marteau. Et c'est l'histoire d'une nana qui a peut-être 25 ans, qui échoue tout ce qu'elle entreprend, et sa capacité à échouer déborde aux gens qui vivent avec elle, sa coloc, ses amis, etc.
Elle les contamine ?
Elle les contamine, mais c'est pas de sa faute, et c'est vraiment... je pleurais de rire, et j'ai eu un fou rire qui s'entendait de chez moi, dans d'autres pièces, et qui a duré très longtemps, et toute la journée, je m'interdisais de repenser à ce que j'avais lu le matin, pour pas recommencer à rigoler. Tellement c'est drôle. D'ailleurs, c'était en rupture de stock, et je ne sais pas si c'est de nouveau disponible, mais précommandez-le, ou faites des petits bons cadeaux à mettre sous le sapin.
C'est hyper bien vendu. Tout à l'heure, vous disiez que vous ne saviez pas expliquer quand
mais
vous aimiez
un
album.
Mais j'ai pas d'argument autre que j'ai adoré. J'ai adoré.
Mais c'est un argument comme un autre, et nous, ça nous va complètement, Pénélope Bagieu. Il est temps de vous présenter des excuses. Daniel, à toi.
Alors, je suis désolé pour déjà notre invité, Pénélope Bagieu, qui pensait ce matin être reçu par Nagui. Eh non. Quand il a vu que vous étiez programmé dans l'émission, il est venu me voir et m'a confié en pleurs. Je peux pas. La BD, c'est trop compliqué. Je m'y perds entre les textes, les bulles, les dessins, tout ça. J'ai jamais réussi à faire un Astérix. Je vomis à la moitié de chaque Tintin. Je peux pas. C'est physique. J'y peux rien. Voilà, désolé. Désolé pour toutes les amatrices pratiquantes du fouetté de cheveux à la Britney Spears dans Womanizer. Vous avez dû subir le mépris de Leila qui a balayé de la main votre art du fouetté capillaire par un dédaigneux. Ouais, c'est leur métier, quoi. Beaucoup de mépris pour l'art du mouvement de Tignasse. Beaucoup trop de mépris. Désolé pour tous nos auditeurs qui sont aussi abonnés à la salle de gym où est inscrite Florence Mendez. Vous avez compris, laissez un périmètre de sécurité olfactif, ça, ou alors mettez-vous près de la fenêtre. Vous l'avez entendu, Florence a un rapport à l'effort viscéral, voire intestinal, voire gastrique, bref, problème d'étanchéité. Désolé pour le verbe émouvoir qui a failli être utilisé ce matin par Pénélope Bagieu à base de enfin bref, le doute et la peur de la faute de français ont fait disparaître. Pénélope, vous savez, hein, on est tranquille ici, on n'est pas chez Trapenard ou Laura Dern, on a le droit d'être dans l'émotionnisme.
Merci beaucoup Pénélope, bienvenue dans la bande originale pour ce très bel album Les Strates aux éditions Gallimard. Et demain on se retrouve
ambiance.
On se retrouve avec une invitée qu'on n'a jamais reçue dans la bande originale, il s'agit de Chantal Goya. Et vous pouvez venir si vous voulez à nouveau, Pénélope.
Ou nous écouter.
Voilà, passez une très très belle journée, merci à tous.